Mathilda II, de Roald Dahl. Monsieur Vertdebois, le grand marchand de voitures. Les parents de Mathilda possédaient une jolie maison, avec au rez-de-chaussée une salle à manger, un salon, une cuisine et trois chambres à l'étage. Son père était marchand de voitures d'occasion et semblait relativement prospère. La sueur de bois, disait-il avec fierté, voilà l'un des plus grands secrets de ma réussite, et elle ne me coûte rien, la sueur de bois. Je l'ai gratis, c'est la scierie. Mais elle sert à quoi ? Lui demandait Mathilda. Hein ? Répondait mystérieusement le père. Tu voudrais bien le savoir. Je ne vois pas comment la sueur de bois peut t'aider à vendre des voitures d'occasion, papa. C'est parce que tu es une ignorante, petite bêtasse. Son discours n'était jamais très raffiné, mais Mathilda y était habituée. Elle savait aussi qu'il aimait se vanter, et elle ne faisait pas faute d'encourager sans vergogne ce travers. Tu dois être drôlement malin pour trouver un moyen d'utiliser quelque chose qui ne coûte rien. Si seulement je pouvais en faire autant. « Tu ne pourrais pas, répliqua le père, tu es trop bête. Mais je ne demande qu'à tout expliquer au jeune Mike ici présent qui deviendra un jour mon associé. » Dédaignant Mathilda, il se tourna vers son fils et continua. « Je suis toujours content d'acheter une voiture à un imbécile qui a tellement bousillé les vitesses que les pignons grincent comme des roues de charrette. Je n'ai plus qu'à mélanger une bonne dose de sueur à l'huile dans la boîte et tout se met à retourner en rond. » Et ça marche combien de temps avant de recommencer à craquer ? Demanda Mathilda. Assez longtemps pour que l'acheteur soit déjà loin, répondit le père en ricanant, dans les 150 kilomètres. Mais ce n'est pas honnête, papa, dit Mathilda, c'est de la triche. Personne ne s'enrichit en étant honnête, rétorqua le père. Les clients sont là pour être arnaqués. Monsieur Vertdebois était un petit homme à face de rat dont les dents de devant saillaient sous une moustache mitée. Il avait un faible pour les vestons à carreaux aux couleurs criardes qu'il agrémentait de cravates généralement jaunes ou vert pâle. Maintenant, prends le kilométrage, par exemple, poursuivit-il. « Celui qui achète une voiture d'occasion veut savoir d'abord combien elle a fait de kilomètres, d'accord ?»« D'accord, » dit son fils. « Donc, j'achète une vieille bagnole avec plus de 200 000 bornes au compteur. Je l'ai pour une bouchée de pain. Personne ne va acheter une épave pareille, pas vrai ?»« De nos jours, on ne peut plus trafiquer les chiffres sur le compteur comme on le faisait il y a 10 ans. Avec les trucs qu'ils ont mis au point, il faut être au moins horloger pour s'y frotter. Alors qu'est-ce que je fais, moi ? Je me sers de ma cervelle, mon petit gars, voilà ce que je fais. Comment ?» demanda le jeune Michael subjugué. Il paraissait avoir hérité de son père le goût de la filouterie. « Eh bien, je m'assieds et je me dis, voyons, comment est-ce que je peux faire passer un compteur de 200 000 à 20 000 km sans mettre l'appareil en pièces détachées ?»« D'accord, si je fais de la marche arrière assez longtemps, je finirai par y arriver, car les chiffres défileraient à reculons. Tu comprends ça ? Mais qui va conduire une vieille bagnole en marche arrière pendant des milliers de kilomètres ? Personne ? Oh non, personne, c'est sûr, appuya le jeune Michael. « Alors je me gratte le crâne, reprit le père. » Je fais fonctionner mes méninges. Quand on a reçu un cerveau bien organisé comme le mien, on s'en sert. Et d'un seul coup, paf, je trouve la solution. Exactement comme ce type génial qui a découvert la pénicilline. Eureka, j'ai crié, j'ai mis le doigt dessus. Alors qu'est-ce que t'as fait, papa ? Lui demanda son fils. Le compteur, répondit M. Vertdebois, est actionné par un câble branché sur une des roues avant. Donc d'abord, je débroche ce câble. Ensuite, je prends une perceuse électrique. Et je branche dessus le bout de câble, de façon que quand l'appareil marche, le câble tourne à l'envers. « Tu saisis, oui ? Tu me suis, fiston ?»« Oui, papa, » dit Michael. « Ces perceuses ont une vitesse de rotation formidable, » enchaîna le père. « Si bien que dès que la machine se met à tourner, les chiffres sur le cadran tournent au même régime. En un rien de temps, avec le moteur maximum, je peux rentrer pas loin de 100 000 km. Et je me retrouve avec un kilométrage inférieur à 20 000 et une bagnole parée pour la vente. « Elle est quasi neuve, » je dis à mon client. « Rendez-vous compte ?» Faut dire qu'elle appartenait à une vieille dame qui ne roulait qu'une fois par semaine pour aller faire ses courses. « On peut vraiment faire tourner le compteur en arrière avec une perceuse ?» s'enquit Michael. « Ce sont les ficelles du métier que je t'apprends, » dit le père. « Surtout garde ça pour toi. Tu voudrais pas que je me retrouve en tôle, hein ?»« J'irai rien à personne, » dit le jeune homme. « T'as fait ça beaucoup de voitures, papa ?»« Toutes celles qui me passent par les mains y ont droit, » dit le père. « Je ramène tous les compteurs en dessous de 20 000 km avant de les remettre en vente. Et j'ai trouvé cette combine tout seul, hein » ajouta-t-il avec fierté. Je me suis ramassé un joli magot comme ça. Mathilda, qui avait écouté avec attention, intervint. Mais papa, c'est encore plus malhonnête que la sueur, c'est dégoûtant. Tu trompes des gens qui te font confiance. Si ça ne te plaît pas, ne mange pas ce qu'on te sert ici. C'est sur mes bénéfices que tu te nourris. C'est du vol, insista Mathilda. Tu me fais honte. Deux taches rouges apparurent aux pommettes du père. Non, mais pour qui tu te prends avec tes sermons ? Hurla-t-il. L'archevêque de Canterbury ou quoi ? Tu n'es qu'une petite cruche ignorante qui parle à tort et à travers. « Très juste, Henri, » approuva la mère, et tournée vers ma Mathilda, elle ajouta. « T'en as du tout pète de prendre ce ton avec ton père. Et maintenant, tu vas fermer ton clapet, qu'on puisse regarder notre émission tranquille. » Installés dans le salon, ils dînaient avec leurs assiettes sur les genoux devant la télévision. Ils mangeaient des repas tout préparés dans des barquettes d'aluminium comportant des cases pour la viande bouillie, les pommes vapeur, les pois cassés. Madame Verdebois mastiquait consciencieusement, les yeux rivés sur l'émission, de variétés saucissonnées de publicité. C'était une bonne femme maflue, aux cheveux teints, en blond platine, à l'exception des racines qui sortaient en un indéfinissable brun jaunâtre. Lourdement maquillée, elle présentait une de ces silhouettes adipeuses aux formes débordantes, à l'évidence comprimées de partout pour enrayer un effondrement général. « Maman, dit Mathilda, ça ne te ferait rien que j'aille dîner dans la salle à manger pour pouvoir lire mon livre ?» Le père lui lança un coup d'œil torve. « Moi, ça me fait, aboya-t-il. Le dîner, c'est une réunion de famille. Personne ne sort de table avant qu'on ait fini. » « Mais nous ne sommes pas à table, remarqua Mathilda. Nous y sommes même jamais. Nous mangeons toujours sur nos genoux en regardant la télé. »« Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder la télé? Je te demande un peu, dit le père. » Sa voix de mauvaise était soudain faite doucereuse. Mathilda, se méfiant de ce qu'elle pourrait répondre, resta silencieuse. Elle sentait monter en elle la colère. Ce n'était pas bien de détester ainsi ses parents, elle le savait. Mais c'était vraiment bien difficile de se contenir. Toutes ces lectures avaient développé en elle une conception de la vie qui leur échappait. Si seulement ils avaient un peu lu Dickens ou Kipling, ils auraient sans doute bien découvert que l'existence ne se bornait pas à escroquer ses semblables et à regarder la télévision. Sans compter que Mathilda en avait assez d'être constamment traitée d'idiote et d'ignorante, alors qu'elle savait très bien que c'était pas vrai. Ce soir-là, envahie d'une fureur croissante alors qu'elle était couchée dans son lit, elle finit par prendre une résolution. Chaque fois qu'elle se ferait rabrouer par son père ou sa mère, décida-t-elle, elle se débrouillerait pour prendre sa revanche d'une façon ou d'une autre. Une modeste victoire ou deux de temps en temps l'aiderait à supporter leurs inepties et l'empêcherait de devenir folle. Il faut bien se rappeler qu'elle n'avait pas 5 ans, qu'il n'est pas facile pour un petit être aussi jeune de marquer des points contre des adultes tout-puissants. Elle n'en était pas moins déterminée pour autant. Et après ce qui s'était passé ce soir-là devant la télévision, son père serait le premier sur sa liste. Le chapeau et la superglue. Le lendemain matin, juste avant le départ de son père pour son infâme garage de voitures d'occasion, Mathilda se faufila dans le vestibule et s'empara du chapeau dont M. Verdebois se coiffait tous les jours. Elle dut se hausser sur la pointe des pieds et tendre à bout de bras une canne pour décrocher de justesse le couvre-chef de sa patère. Il s'agissait d'un chapeau de tweed, plat avec une plume de jais fichée dans le ruban et dont son père était très fier. Il lui donnait, pensait-il, une allure dégagée et sportive, surtout quand il le portait incliné sur l'oreille avec son veston à carreaux et sa cravate verte. Mathilda, tenant d'une main le chapeau et de l'autre un tube de superglue, entreprit de déposer un mince filet de liquide adhésif le long de la bordure inférieure. Puis, s'aidant de la canne, elle remit le chapeau en place. Elle avait minuté avec soin l'opération, appliquant la colle juste au moment où son père allait quitter la table du petit-déjeuner. Monsieur Verdebois, en mettant son chapeau, ne s'aperçut de rien. Mais une fois arrivé au garage, il constata qu'il était impossible de l'enlever. Cette superglue était si puissante que s'il avait tiré trop fort sur son chapeau, c'en était fait d'une bonne partie de ses cheveux. Monsieur Verdebois, n'ayant aucune envie d'être scalpé, dut donc garder son chapeau sur sa tête toute la journée, même en remplissant les boîtes de vitesse de sûre et en trafiquant les compteurs kilométriques avec sa perceuse. S'efforçant de sauver la face, il adopta une attitude désinvolte dans l'espoir que son personnel penserait qu'il restait volontairement couvert par pure fantaisie, comme le font les gangsters dans les films. Lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là, son chapeau tenait toujours aussi bien sur sa tête. « Voyons, ne sois pas ridicule, lui dit sa femme. Viens ici, je vais te l'enlever. » Elle saisit les bords du chapeau et leur imprima une brusque saccade. Monsieur Verdebois poussa un glapissement qui fit trembler les vitres. « Ah !» hurla-t-il. « Arrête ! Fais pas ça, tu vas m'arracher la peau du front !» Mathilda, du fond de son fauteuil, suivait avec intérêt la scène des yeux par-dessus le bord de son livre. « Qu'est-ce qui t'arrive, papa » demanda-t-elle. « Ta tête a tout d'un coup enflé ou quoi ?» Le père foudroya sa fille d'un regard chargé de soupçons, mais ne répondit rien. Qu'aurait-il pu lui dire ? « Ça doit être de la superglue, assura Madame Verdebois. Si tu veux que ça soit d'autre, ça t'apprendra à tripoter une saleté pareille. Tu devrais sans doute essayer de coller une autre plume à ton chapeau. »« J'ai même pas touché à cette fichue colle !» s'exclama M. Verdebois. Il se détourna et dévisagea déjà de nouveau Mathilda, dont les grands yeux marrons sontinrent son regard avec innocence. « Tu devrais lire l'étiquette sur le tube avant de manipuler des produits dangereux comme ça, » lui dit Madame Verdebois. « Faut toujours veiller à suivre les modes d'emploi. » « Mais non un chien, qu'est-ce que tu me chantes, espèce de vieille sorcière ?» hurla M. Verdebois en agrippant des deux mains les bords de son chapeau pour empêcher quiconque de se remettre à tirer dessus. « Tu te figures que je suis assez bête pour me coller exprès ce galurin sur la tête ?» Au bout de la rue, fit observer Mathilda, il y a un garçon qui s'est mis la superglue sur le doigt sans s'en apercevoir. Et après ça, il s'est mis le doigt dans le nez. M. Verdebois sursauta. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bredouilla-t-il.
Son doigt lui est resté collé dans le nez, dit Mathilda. Il a dû rester comme ça pendant une semaine.
Tout le monde lui disait « Ne paie pas ton doigt dans le nez !» Mais il n'y pouvait rien.
Ah, il n'avait pas l'air malin.
« Bien fait pour lui, » dit Madame Vertdebois. « N'avait qu'à pas se fourrer le doigt dans le nez pour commencer. C'est une vilaine habitude. Si on mettait de la superglue sur le doigt de tous les enfants, ils arrêteraient vite de se curer le nez. »
« Les grandes personnes le font aussi, maman, » dit Mathilda. « Je t'ai vu le faire hier dans la cuisine. »«
Toi, tu vas te taire !»
riposta Madame Vertdebois, dont le visage s'était empourpré. Monsieur Vertdebois dut garder son chapeau pendant tout le dîner devant la télévision. Il était grotesque à voir et s'abstint de toute réflexion. Quand il se leva pour aller se coucher, il fit un nouvel essai pour se débarrasser du chapeau. Sa femme se mit de la partie, mais sans résultat.
« Comment est-ce que je vais prendre ma douche » maugréa-t-il.
« Tu t'embrasseras, voilà tout !» lui dit sa femme. Et plus tard, comme elle regardait son petit gringalet de mari qui errait dans la chambre en pyjama rayé violet, avec son chapeau de tweed sur la tête, elle songea qu'il avait vraiment l'air minable.
« Pour faire rêver les femmes, se dit-elle, on pourrait trouver mieux. » Monsieur Vertdebois découvrit alors que le pire, lorsqu'on avait un chapeau vissé sur le crâne, c'était l'obligation de dormir avec. Pas moyen de poser confortablement sa tête sur l'oreiller.
« Mais arrête donc de tortiller comme ça !»
glapit sa femme après qu'il se fût agité sans arrêt sous les couvertures pendant près d'une heure.
« Demain matin, il va se décoller tout seul, ton chapeau, tu n'auras plus qu'à l'ôter. »
Mais le lendemain, le chapeau tenait toujours aussi bien sur la tête de son mari. Madame Vertdebois s'arma alors d'une paire de ciseaux et découpa circulairement le couvre-chef à petits coups. D'abord la coiffe, ensuite les bords. Là où la bande adhésive adhérait solidement aux cheveux, elle dut couper les mèches au ras du crâne. Si bien que Monsieur Vertdebois se retrouva finalement avec une sorte d'anneau blanchâtre autour de la tête, un peu comme un moine. Et sur le front, là où la bande collait à la paume nue, subsista tout un semis de petits lambeaux de cuir brunâtre qu'aucun savonnage ne réussit à détacher. Au petit déjeuner, Mathilda dit à son père
« Il faut absolument que tu fasses partir ces saletés de ton front, papa. On dirait que tu es couvert de petits insectes qui te rampent dessus. Les gens vont croire que tu as des poux.
« Assez !» aboya le père. « Tu vas fermer ton sale petit clapet, tu m'entends ?»
Tout bien considéré, songea Mathilda, l'expérience est plutôt bien réussie. Mais il ne fallait pas trop espérer que son père retiendrait longtemps la leçon qu'il avait reçue.